Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeux, l'émission où on vous résume toute l'actu, pas tech, internet et gadgets, mais jeux vidéo, PC, console, France, Japon, États-Unis, toutes les news et toutes les infos et tous les jeux, ou presque, sont dans l'émission. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Maïté alias Escarina. Comment ça va Maïté ?
Bah écoute, ça va plutôt bien. J'ai le petit rhume de fin janvier que chacun mérite. Mais sinon, ça va très bien. Je suis très contente d'être là avec vous.
Et bonne année, du coup, puisqu'on ne s'est pas parlé depuis la fin de l'année dernière.
Et tout pareil.
De l'autre côté, il y a un invité avec qui on ne s'est pas parlé depuis bien longtemps et qui, entre-temps, m'a rejoint dans le clan des papas. Donc, salut Daniel. Daniel Andreev, alias Kamui Robotics, comment ça va, Daniel ?
Bah écoute, ça, si je te disais ça va parfaitement, je pense que je surévaluerais ce commentaire. Mais ça va, le moral est très très bon. Voilà,
très
je suis
bien.
Je suis très content d'être là et je suis très content de pouvoir, puisqu'on enregistre le 30, de souhaiter encore une nouvelle année et au moins un nouvel an, bon nouvel an chinois à tous ceux qui nous écoutent.
C'est vrai.
Et donc, ouais, je suis très, très content et je tiens juste sur l'adrénaline. Il n'y a que l'adrénaline qui me fait tenir.
Pour ceux qui ne savent pas, tu as un bébé de quoi, 3 semaines maintenant ?
Il a 19 jours aujourd'hui.
19 jours, d'accord. Donc, on est presque à 3 semaines. Ouais, donc je connais ça.
Sport, mais je dois parce que mon rôle il est maintenant, il existe, mais tout le... Tout le mérite en revient à la maman. Hein, tout le travail, tout l'enjeu, le mien maintenant, tu sais quoi. Maintenant, je suis plus qu'un soldat et je suis content d'être là.
C'est très bien, c'est très bien. Oui, c'est marrant parce que moi, je suis en train, maintenant, je suis passé de l'autre côté de la barrière et donc je vois ceux qui escaladent cette barrière derrière moi. Je les regarde et je leur fais « Ouais, salut, on est ensemble maintenant. »
C'est un vétéran,
exactement. Donc, bon, bienvenue et je suis content que... Comment tu l'as dit, tu as le moral ? Le moral est bon ?
Le moral est bon, ouais. Le moral est très bon.
Super.
Mais il est fatigué, le moral, mais il est très bon.
Fatigué, mais très bon, c'est pas mal. Des gens qui ne sont pas du tout fatigués, mais qui sont par contre très très bons, c'est ceux qui soutiennent l'émission sur Patreon, comme Notka, Riichi, Christian Kitros, Alexandre Reynaud, Alexandre Pouchet, Philippe Chabert, Jean-Pierre Soli, Armitage, Fidify et Sébastien. Merci à vous tous et à tous ceux qui font l'effort de soutenir financièrement le Rendez-vous Jeu sur Patreon. Le lien et dans les notes de l'émission, ça prend 2 minutes et non seulement ça fait très plaisir, mais en plus vous avez des petites récompenses super sympas dont je vous parlerai un petit peu plus tard dans l'émission. Mais avant ça, on va se concentrer sur les grosses news et la news principale qui vient après ce dont on a parlé la semaine dernière ou il y a 2 semaines plus tôt, et ben c'est les délais, les décalages, les retards en série dans le monde du jeu vidéo. Et avant de parler de ça, alors je vais vous faire une petite confidence, chers auditeurs, c'est que ça fait à peu près 10 jours que j'essaye de mettre en place un système simple pour pouvoir parler et avoir des sons en même temps dans l'émission, et c'est beaucoup plus compliqué qu'on pourrait le penser. Je trifouille VoiceMeeter, ma table de mixage, mes cartes son USB, enfin plein de trucs. Bref, je vais finir par y arriver, mais j'y suis pas encore. Et donc, tout ça pour dire que je voulais vous faire écouter un petit extrait du rendez-vous jeu d'il y a 2 semaines, du dernier épisode, pour pouvoir commenter dessus ensuite. Et donc, je vais faire des petits changements dans les paramètres de Skype, ce qui est un petit peu peu l'équivalent de la voltige quand on est en train d'enregistrer. Donc j'espère que ça va fonctionner. Il y a Daniel qui enregistre derrière au cas où ça merde complètement de mon côté. Mais donc, je voudrais vous faire écouter ceci. On va voir si ça marche. Je fais... donc en fait, on va plus m'entendre et j'espère qu'on pourra me réentendre après. Attention, je fais ça. Hop.
Et entre-temps, il y a eu l'annonce de The Witcher et Cyberpunk est complètement passé en mode sous-marin et est ressorti il y a quelques années. Donc voilà. Donc autant te dire que même à titre personnel, par rapport à ma carrière de journaliste dans le jeu vidéo, ça fait quelque chose de le voir sortir, quoi, parce que c'est un jeu que j'attends énormément.
Oui, bah attends, il reste 4 mois, hein, on sait pas, ils peuvent encore nous dire, ah bah non, finalement.
J'imagine, ouais, s'ils le repoussent. Enfin, après, je.
Non, là, je crois pas trop.
Ouais.
Hop, je suis revenu. Normalement, c'est bon. Alors, c'est quand même... J'aurais pu être un peu vache et arrêter le previously on le rendez-vous jeu. J'aurais pu l'arrêter juste quand je dis « Ah, oh, mais imagine s'il le décale » et ne pas mettre le moment où je dis « Non, mais là, j'y crois pas trop quand même. » Et j'aurais été une sorte de prophète annonçant le décalage avant qu'il ne soit officiellement annoncé. C'était vraiment 3 heures après la publication de l'épisode. Donc, je sais pas, je vais vous poser la question à tous les deux. Est-ce que je l'avais prévu l'annonce du décalage, alors que tout le monde au monde croyait qu'il allait vraiment pas être décalé, ou est-ce que en fait je me suis planté et on a sorti 3 heures avant une fake news quasiment? Quel est votre jugement? Je vous pose la question à tous les deux, pas aux auditeurs, parce que les auditeurs, je leur fais pas confiance. Je sais ce qu'ils vont dire, ils sont pas honnêtes.
Bah écoute, moi je dirais que des jeux comme ça, on croit toujours jusqu'au bout qu'ils vont pas être repoussés. Maintenant, c'est pas la première fois que le studio, enfin tu vois, ils avaient fait pareil pour The Witcher. D'ailleurs, il me semble que J.K. l'évoquait aussi dans ton émission. Mmh. Donc au final, c'est pas très surprenant. Je pense que tout le monde se dit qu'au final, il vaut mieux que ce soit repoussé et que les choses soient faites correctement plutôt que l'inverse. Après, moi, ça m'arrange parce que vu que FF7 Remake a été repoussé à une semaine de la sortie originale de Cyberpunk 2077, là au moins j'aurai tout le temps pour le faire, je me pose plus la question, donc c'est très bien.
C'est plutôt Avengers qui est un petit peu dans l'embarras, puisque lui, il a été décalé à, je crois, je sais pas, une semaine de Cyberpunk. Donc Cyberpunk, il est décalé à septembre. Est-ce qu'on a une date déjà? Il faut que je vérifie. Je crois qu'on a une date le 17 septembre, c'est ça. Donc oui, c'était l'annonce qui est venue couronner en fait l'ensemble des annonces de décalage. On a eu Cyberpunk, Avengers et Final Fantasy dont on parlait la dernière fois, Iron Man, Dying Light qui a été décalé, repoussé indéfiniment. Ils ont même pas donné de date. C'est vraiment le festival. Tous les développeurs sont, comme on le disait, en train de pousser aux limites de la nouvelle génération pour sortir avant, mais pas sortir après. Donc, ils sont tous en train de se bousculer un petit peu. Est-ce que toi aussi, Daniel, tu vois ça avec bienveillance, le décalage, ou ça te frustre ou,
Alors, plein de choses à la fois. D'abord, au début, j'étais en train de me dire, mais de quel jeu décalé il parle? Parce que tu n'as pas mentionné Cyberpunk. Alors, je me disais, mais de quel jeu il parle? De Final Fantasy Remake, bien sûr. Et ensuite, le décalage, il existera toujours et il faut toujours voir que pour un éditeur, c'est un échec parce que tu as toujours envie d'avoir plus d'argent tout de suite, maintenant, plutôt qu'après. Et pour Final Fantasy VII Remake, par exemple, en l'occurrence, tout le monde s'est dit « Merde, il retarde d'un mois, c'est un truc stratégique, c'est un truc pour gagner de l'argent sur l'année fiscale suivante puisque la fin de l'année fiscale, c'est le 31 mars au Japon. » Donc du coup, on se disait « Ah bah c'est pour gagner sur l'année suivante. » En fait, non, personne n'est content de ce genre de situation. Le truc, c'est que d'abord, il y en a un qui a gagné dans cette histoire, c'est Animal Crossing, parce que Animal Crossing, tout le monde disait « Oh non, pauvre Animal Crossing, il va se faire décimer, il a face à lui, il a Avengers, il a Cyberpunk, il a Final Fantasy VII Remake, il a tous les trucs super hardcore face à lui. » Et tout d'un coup, bah, tu te retrouves avec Animal Crossing et Pokémon Donjon Mystère DX, dont tout le monde se foutait. Et maintenant, il est seul tout dans ce
pour remake. Seul tout, il y a quand même Doom Eternal. Hein. Peut-être qu'il ne chasse pas tout à fait sur les mêmes terres.
Doom Eternal, c'est peut-être pas le même public. Ouais.
C'est ça. Doom Eternal, ah oui, c'est la contre-programmation à ce niveau-là. Doom Eternal, Pokémon et Animal Crossing. Et en plus, Doom Eternal qui la joue hardcore du genre « Non, nous, on n'a pas des DLC, on est des bad boys ». Et moi, je suis un peu Bah, de toute manière, il y aura un jeu qui m'intéresse par mois. Je suis certain, vu l'industrie du jeu vidéo, que ce soit en import, que ce soit venant du Japon, que ce soit venant de la scène indé, venant des États-Unis, tu sais très bien qu'il y a forcément quelque chose qui va sortir un mois ou un autre. Pour eux, le seul enjeu, c'est de sortir à un moment où il n'y a personne. Et bah, on se souvient de toute la valse des retards quand il y avait Red Dead Redemption 2 et personne ne voulait sortir en même temps, même pas les fans de Call of, ils avaient peur. Bah, écoute, ça fait partie de l'industrie. Moi, je pense surtout aux pauvres gens qui doivent travailler 8 mois de plus, 9 mois de plus sur des jeux pas... où ils doivent parfois reprendre tout à zéro. Ou doivent... Tu vois, je pense à Avengers, parce qu'Avengers, il a vraiment l'air cracra. Et je me dis, putain, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de taf. Il y a des... Et aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a des jeux qui ne sont pas annoncés, qui vont arriver même dans ce gap temporel jusqu'en septembre-octobre. Donc, non, pour moi, ça me touche pas vraiment. En plus, Cyberpunk, il va sortir pile au moment du Tokyo Game Show, alors je peux te dire que...
T'auras d'autres choses à faire.
Je vais être au Japon, pas au simili Japon, je vais être au Japon.
Ouais, bon, mais attends, peut-être que le Tokyo Game Show va être repoussé. J'essaie de continuer mes prévisions. Ouais, non, mais c'est vrai que.
Il y a les dates.
Oui, mais ils avaient donné une date pour Cyberpunk aussi, on sait jamais. Non, mais c'est très drôle parce que. Bon, mais oui, c'est sûr que moi, ça m'affecte pas énormément non plus parce que même les jeux que j'attends, je me dis, s'ils sont pas finis, il faut qu'ils les finissent. Et puis, il y a toujours des bons jeux à faire. Et quand il n'y a pas de bons jeux sur les 2-3 semaines autour de nous, il y a les jeux des 2 ou 3 années précédentes qui restent à faire. Donc, c'est vrai qu'on est toujours occupé. La pensée qu'il faut effectivement avoir aussi, c'est ce que tu mentionnais, Daniel, le fameux crunch et le fait que, en particulier chez CD Projekt, ils ont dit clairement que ça allait mener à malheureusement une certaine forme de crunch. Ils essayent d'être vigilants, mais c'est on en parlait déjà dans complètement. Ils disent que c'est pas, mais on peut se poser la question, est-ce qu'ils décalent pour éviter le crunch parce qu'ils savent qu'ils ont encore des choses à faire et qu'ils se disent ça va être trop de crunch. Mais là, ils disent, bah non, on aura quand même du crunch, évidemment. Et là encore, on en parlait dans l'épisode précédent. Tout est question de savoir à quel point ça crunch. Est-ce que c'est, entre guillemets, un crunch raisonnable, si ça peut exister? Enfin, je ne vais pas refaire ce que je disais dans l'épisode précédent. Je m'étais assez étendu là-dessus. Mais oui, c'est évidemment le problème auquel beaucoup de gens pensent aujourd'hui, grâce à tout ce dont on a parlé ces dernières 2 ans. Parce qu'ils étaient déjà en train de bosser comme des fous, certainement, pour finir tous ces jeux, y compris Cyberpunk et Avengers. Et là, c'est pas qu'on rajoute 5 mois pour que ça soit le Club Med, quoi. C'est 5 mois de boulot dur en plus.
Pour eux, c'est toujours quelque chose de mauvais pour un développeur. C'est 8 mois à parfois à déprimer, 8 mois à pas voir ta famille, 8 mois à bouffer du KFC dégueulasse. Tu sais pas comment vont être remplis ces 8 mois. Et en général, personne n'en sort grandi en fait de cette histoire. Ouais. Tout le monde est déprimé en fait après une expérience comme ça.
C'est en fait moi ce que j'espère. Je réitère ce que je disais la dernière fois. J'espère que les scandales à répétition qu'on a eu ces dernières années poussent ces entreprises à être un peu plus raisonnables dans la manière dont ils gèrent le crunch. Et ce que j'espère à côté de ça, c'est que si jamais il y a des pratiques vraiment excessives et nocives, il y aura des gens pour envoyer des mails aux journalistes américains qu'on connaît et pour leur dire comment ça se passe vraiment et pour exposer ça au grand jour. Donc j'espère que cet équilibre des pouvoirs entre la presse et le public et les besoins des sociétés va fonctionner. Mais ça, on le saura pas tout de suite, quoi.
Après, je ne sais pas trop quelle leçon il faut retenir de ça. Tu vois, est-ce que ça veut dire que les studios annoncent leur date de sortie trop tôt? Est-ce qu'ils ont été trop ambitieux? Je ne sais pas s'ils ont vraiment pris la parole sur les raisons un peu plus précises de...
Ouais. C'est un truc qu'on a entendu aussi, effectivement. Il y a des gens qui étaient frustrés de ces décalages, ce que je peux comprendre, parce qu'ils attendaient les jeux avec impatience, et qui disaient, mais du coup, autant ne pas annoncer de date. S'ils ne savent pas, s'ils ne sont pas sûrs qu'il va être fini, autant pas l'annoncer, ou ce genre de réflexion. Et vraiment, ça dénote d'une méconnaissance complète de la manière dont fonctionne le développement de jeux vidéo. Le jeu vidéo, ça ne fonctionne pas de cette manière. Ils n'ont pas annoncé une date en se disant, bah, de toute façon, on ne sait pas si ça sera fini. Ils pensaient vraiment que ça serait fini à ce moment. Et les jeux sont vraiment très back-heavy ou front-heavy, je ne sais pas comment on veut le considérer, mais tout s'imbrique et tout se met à fonctionner vraiment au dernier moment, dans les derniers mois, dans les jeux vidéo. Dans le jeu vidéo, dans le développement, tu avances vraiment dans le noir pendant l'immense majorité du développement pour ce qui est du gameplay, de ce qui est fun, de ce qui fonctionne. Et même pour l'optimisation du jeu, on en entendait parler parce qu'il y a des rumeurs qui disent que le jeu fonctionne pas bien sur les consoles de génération actuelle. Et il y a même Cory Barlog de Santa Monica, développeur de God of War, qui a expliqué certains éléments à ce propos. Mais pour tout un tas de raisons, les jeux ne sont finalisés vraiment que dans les derniers mois. Et du coup, ce qu'il faudrait faire, c'est n'annoncer qu'à un mois de la sortie. Et évidemment, oui, ça serait possible, mais c'est se couper de tout un élément de la hype marketing qui a mauvaise presse chez les vrais joueurs, parce que le marketing, c'est caca et prout-prout. Mais soyons honnêtes, le marketing, ça fait partie aussi de l'aura du jeu et c'est un truc qu'on apprécie chez les joueurs. Il y a plein de gens qui diraient... Pour moi, il y a une sorte d'hypocrisie de certains qui vont dire « Ah, mais le marketing, on n'en a pas besoin. » Non, ça fait partie de la fête. C'est comme, je ne sais pas, un trailer
de
film.
C'est ce qui te donne envie d'acheter le jeu, quand même.
C'est ça. Et en plus de ça, certains d'entre nous seraient au courant de la sortie de certains jeux. Peut-être que Cyberpunk est une exception parce que c'est tellement un gros truc. Mais certains d'entre nous seraient au courant de toute façon parce qu'on est des core gamers et qu'on écoute des podcasts sur le truc et qu'on suit toute l'actu à fond. Mais on représente une petite partie du public du jeu vidéo. Le marketing, il est bien sûr là pour influencer les gens, mais aussi là pour faire en sorte que les gens sachent que ces jeux existent et quand ils vont sortir. C'est un truc qui est important dans la manière de communiquer pour que les développeurs qui bossent si dur sur ces jeux puissent le vendre après. Enfin, c'est une évidence qu'on ne devrait pas avoir besoin de rappeler, mais dans certains cas, quand certains disent « Oh, mais pas besoin d'avoir des dates de sortie, c'est que pour la grande machine marketing », non, moi je suis désolé, ça fait partie du truc. Et en plus, surtout, l'élément le plus important, c'est le fait que les jeux, ça se goupille vraiment dans les derniers mois. Donc on peut arriver à un moment où on se dit telle mécanique, on pensait que ça allait être fun, c'était sympa sur le papier, mais en réalité ça fonctionne pas vraiment, on a trouvé un autre truc qui allait être accessoire mais qui finalement fonctionne bien, donc on veut en mettre plus, donc il faut aller reprendre certaines parties du jeu qui ont déjà été plus ou moins développées. Enfin, c'est vraiment construire un avion pendant qu'il vole le jeu vidéo. Donc non, parce ne pas annoncer de date, c'est pas possible, quoi.
La date initiale, elle avait été annoncée en juin 2019, donc quasiment un an au final avant. Après, la question, c'est est-ce qu'ils vont repousser
Là, je vais dire ça, je pense pas, mais...
Attention à ce que tu dis, ouais, c'est ça, sinon exactement. Tu vas devoir refaire un montage.
Mais ouais, est-ce que tu as une opinion sur la chose des annonces de date de sortie, toi, Daniel? Parce que c'est vrai que ça a été un truc dont beaucoup de gens ont discuté aussi.
Écoute, moi j'aime bien le côté reveal, on reveal ça et plus que l'industrie du reveal de la date, en fait, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les reveals des éléments de jeu, en fait, parce que tout est désormais très contrôlé en amont sur les annonces de jeu, sur qu'est-ce qu'il y a dans le jeu, que du coup tu perds un peu de naturel, tu perds un peu de spontanéité, et qui est rattrapé aussi aujourd'hui, parce que pour moi, il y a aussi autre chose qui existe, c'est les leaks. En fait, les leaks des éléments de jeu, par exemple, tu vois, Final Fantasy VII Remake, je pense que ce qui lui a fait plus de mal que les doubles retards qu'il a eu, enfin, tu vois, ça a été un développement compliqué, c'est le leak qui a eu lieu il y a un mois, et qui raconte à peu près tout le jeu. Le déroulement du jeu, tu sais quels sont les persos, tu sais comment ça va s'arrêter, parce que ces mecs-là, sur la démo, ont laissé la plupart des assets. Enfin, il suffit d'être un bon codeur pour fouiller le code et vérifier ce qu'il y a dedans. Et donc, du coup, l'essentiel du jeu a déjà leaké alors que le jeu a été retardé. Et je pense que ça fait beaucoup plus de mal à la carrière d'un jeu que le retard. Mais pour après, pour ce qui concerne vraiment le retard en tant que tel, il y a cette fameuse phrase de Shigeru Miyamoto qui dit un mauvais jeu sera toujours un mauvais jeu, un jeu retardé a peut-être une chance d'être un bon jeu parce qu'on va retravailler dessus, mais un mauvais jeu.
Je crois que la citation exacte, c'était un truc genre on se souvient d'un jeu, on se souvient qu'un jeu est bon, on ne se souvient pas s'il a été retardé. Donc,
alors voilà.
on se souvient qu'un jeu est mauvais, on se souvient pas qu'un jeu est
au jeu des citations avec 4 heures de sommeil, je ne gagne pas. Donc voilà.
Bon, et la mienne n'est pas très précise non plus, j'avoue.
Mais les gens qui ont envie d'acheter le jeu vont pas se retenir de l'acheter parce qu'il a été repoussé. Enfin.
Non, évidemment, évidemment. Ouais, et disons que pour être parfaitement 100% honnête, moi je préfère la méthode qu'a employée Bethesda il y a quelques années de ça, en disant bon ben voilà tel jeu, il est dispo dans 2 mois ou dans 3 mois. Oui, et dans le meilleur des mondes, j'adorerais que ça soit comme ça, mais je pense que c'est une vision un petit peu idéalisée, et on peut pas toujours faire comme ça.
Et les seuls qui peuvent se permettre un truc comme ça, c'est Blizzard. Blizzard, ouais. ils disent notre jeu, il sortira quand il sera
when
prêt.
It's done,
ouais. Ouais, de pas donner de date, oui, c'est vrai que.
De pas donner de date. Et Nintendo, qui est aussi un peu un as du genre, en annonçant le jeu deux mois avant qu'il arrive, ils disent finalement, on a aussi ça qui sort, et hop, ils étaient assez bons pour moment, ça. Ouais.
Ouais. Bon, enfin voilà, en tout cas, c'est vrai que même s'il y a des jeux qui sont décalés régulièrement, là c'est un festival particulièrement fourni, et c'est, je pense, un symptôme de cette année qui est une année. On parlait d'une année de transition l'année dernière, enfin certains parlaient d'une année de transition l'année dernière, moi j'étais pas tout à fait d'accord. Cette année-ci, c'est une année où on sent effectivement la transition parce que tous les décalages arrivent à leur terme et ils poussent aux limites de la nouvelle génération. Donc. Bref, voilà pour notre petite discussion sur les décalages. Un petit mot sur Stadia, notre sympathique camarade de notre plateforme qui est un petit peu handicapée, on va dire. Google a annoncé qu'ils avaient 120 titres qui arrivaient en 2020, dont une dizaine de jeux exclusifs. Ils ont parlé de certaines fonctionnalités qui arrivent, qui sont des fonctionnalités qu'ils avaient déjà annoncées, il n'y a rien d'exceptionnel.
C'est-à-dire qu'ils avaient promis Day One, quoi.
C'est ça. Je ne sais pas s'ils les avaient explicitement promis Day One, mais c'était implicite, on va dire. Et je me demande d'ailleurs, on arrive au terme des 3 mois de Founders gratuit, là, quand on a acheté, comme moi, le Founders Pack. j'ose... le rire qui en dit long. J'ose espérer qu'ils vont nous offrir 3 mois de plus, quoi, parce que là, le service n'est pas prêt d'être sorti normalement. J'espère qu'ils vont faire ça, et j'espère que l'un des jeux qu'ils vont inclure et qu'ils vont offrir dans leur abonnement pro, un truc qui pourrait faire que, oh, en fait, c'est quand même sympa de leur part, c'est s'ils offraient Doom Eternal à tous ceux qui sont abonnés en pro, c'est-à-dire les rares qui resteront, les 4 là qui sont dans un coin comme moi. C'est un truc qui pourrait redorer un tout petit poil leur blason. Mais à côté de ça, un truc vraiment intéressant, là pour le coup, c'est vraiment le cas, c'est intéressant. Ils ont signé un partenariat avec BT, British Telecom anciennement, qui est le plus gros fournisseur d'accès en Angleterre, pour donner un abonnement Stadia à certains de leurs abonnements Internet. Et c'est intéressant parce que là, ça montre ce que permet cette technologie de streaming, c'est que tu n'as pas besoin d'envoyer une console, il pourrait le faire, hein, mais tu n'as pas besoin d'envoyer une console à quelqu'un, tu l'offres juste au... abonnés, et ils peuvent l'utiliser parce qu'en plus, s'ils font ça, j'imagine qu'ils vont avoir les bons centres de données connectés comme il faut, donc ça sera de garantie de bonne qualité pour le service. Et c'est un partenariat très intéressant, j'ai trouvé. Donc, je voulais le mentionner. Mais ça ouvre une fenêtre sur ce que pourront faire tous ces services-là de cloud gaming et la manière dont ils pourront offrir à l'industrie des possibilités qui n'existaient pas avant.
Mais est-ce que le fait de faire des bundles comme ça, c'est pas aussi une façon pour eux de forcer un peu le marché, étant donné le flop du lancement ?
Bah, disons que là encore, on en revient à la question du marché qui s'ouvrira vraiment quand la version gratuite du service sera disponible, ce dont ils ne parlent même pas, donc j'imagine qu'ils sont pas prêts du tout. Mais pour moi, ils ont tiré une croix, ils ont tiré un trait plutôt sur le service tel qu'il est sorti maintenant, et ils vont avoir une sorte de relancement quand il sera vraiment disponible. Mais ce partenariat là, c'est pas pour redorer leur blason, c'est juste qu'ils commencent à explorer les possibilités qu'offre ce type de service, qui sont différentes des possibilités des autres plateformes qui ont besoin d'un objet physique. Encore aujourd'hui, quand le xCloud sera là, quand le PlayStation Now sera plus développé, ça changera pour eux aussi, mais peut-être qu'ils peuvent prendre un petit peu d'avance là-dessus. À noter aussi que on a pour les Stadia Pro, Metro Exodus et Guilt, leur exclusive qui est inclus en février dans l'abonnement. Pour Xbox Games with Gold, on a Call of Cthulhu en février et Fable Heroes. Et on a d'ailleurs, tiens, pour le Xbox Game Pass, A Plague Tale Innocence, Indivisible et Children of Morta. Je crois que ce n'était pas encore inclus quand on a fait l'épisode précédent. Donc, trois jeux qui sont, qui ont été... Enfin, deux d'entre eux, A Plague Tale et Children of Morta, on en a parlé dans notre top des jeux de l'année dernière et je vous parlais de Children of Morta à l'épisode précédent. Donc si vous ne les avez pas achetés et que vous n'avez pas eu le plaisir de soutenir directement les développeurs de ces jeux en payant directement de l'argent, et ben vous pouvez quand même avoir accès aux jeux. Et moi, je ne regrette pas du tout d'avoir acheté A Plague Tale, puisque ça veut dire que je les ai soutenus. Je ne sais plus si je disais ça déjà dans l'épisode précédent, mais je le réitère.
Non, je ne savais pas que tu avais acheté le jeu.
Oui, je l'ai acheté il y a 3 semaines, quelque chose comme ça. Donc, ouais, j'ai même commencé à jouer un petit peu, figure-toi. Et quoi d'autre ? Il y a BioShock Collection et The Sims 4 pour PlayStation Plus en février. Donc voilà, ça fait là encore une belle collection de jeux. Bon, j'imagine que vous n'avez pas plus de commentaires que ça sur Stadia, ça n'a pas l'air de vous passionner. Donc on peut avancer à Nintendo, à moins que...
Ah.
Voilà, là Daniel se réveille.
Non, mais attends, Stadia, j'ai jamais vraiment exprimé mon avis là-dessus parce que bon, j'ai pas acheté, je l'ai vu tourner chez Gamekult avec une très bonne connexion. Tu sais quoi, ça nous a donné beaucoup de vannes, Stadia, c'est vrai, et ça nous en donnera encore beaucoup, mais en vrai, je suis assez déçu que ça fonctionne aussi mal, que les promesses sont pas tenues, parce que ça aurait été vraiment intéressant, une offre comme ça. Je pensais vraiment que ça pourrait avoir un impact sur l'industrie. Et pour l'instant, on a une espèce de prototype qui tourne bif-bof, enfin, pour ce que j'en ai vu. Donc, je trouve ça vraiment dommage. Mais voilà, c'était juste mon opinion sur Stadia. On verra dans 2-3 ans quand il y aura quelque chose qui va sortir dans le jeu.
Moi, je reste convaincu que les fondamentaux sont solides et que ça va avoir une influence et que ça va devenir une partie de notre panneau, de notre panorama de manière de jouer. Mais oui, pour le moment, on n'y est pas encore. Pardon, Eska, je t'ai interrompu.
Non, c'est pas grave. Non, moi, je voulais juste rebondir. Alors, pas sur la partie Stadia, mais sur le reste de ce dont tu parlais. Moi, j'étais très contente pour Children of Morta parce que ça faisait un moment que j'hésitais à me le prendre sur Switch. Et du coup, quand j'ai vu qu'il est sorti sur le Game Pass, je me suis dit qu'est-ce qu'elle est bien, cette offre, quand même. Et j'ai pu tester et j'aime beaucoup le jeu. Par contre, le pendant de ça, c'est, j'en discutais un petit peu sur Twitter avec quelques personnes qui me disaient que du coup, maintenant, elles commençaient à se poser des questions sur l'achat de jeu et à se dire est-ce que je l'achète maintenant parce qu'il va peut-être sortir sur le Game Pass. Et voilà, tu sentais des commentaires un peu en demi-teinte comme ça de jeux qui se disent au final, est-ce que pour les éditeurs et les studios de jeux derrière, est-ce que ça va quand même pas être à double tranchant tout ça ? Alors après, ouais. Je connais pas les montants derrière négociés.
Ça, c'est tenu secret, donc on sait pas effectivement. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des montants. Mais je crois que pour ce genre de personnes, oui, ça va avoir un petit effet. La question, c'est de savoir si c'est compensé par les montants obtenus par Game Pass. Moi, je pense que oui, on le saura dans quelques années, quand les langues se déliront peut-être un petit peu, mais pour ces jeux-là, ça veut dire que c'est des gens qui ont déjà beaucoup de jeux à faire, qui sont pas sûrs de vouloir y jouer de toute façon, et qui vont peut-être l'attendre, et qui l'attendaient quoi qu'il arrive, généralement, pas tout le monde, mais qui l'attendaient en solde ou ce genre de
trucs. Oui, c'est ça.
Voilà, moi je crois que ça va influencer en partie, mais à voir si ça phagocytera ce type de vente, je suis pas convaincu. Je crois que les gens qui veulent un jeu, s'ils le veulent vraiment, bah ils l'achètent.
Le prennent day one.
C'est ça, voilà, day one ou quand ils entendent parler du truc et qu'ils se disent ah bah ça pourrait être pas mal. Je veux dire, on le voit bien, personne ne s'est mis à arrêter d'acheter des jeux parce que le Game Pass existe. Et je pense pas que l'argument soit bah, on va arrêter d'acheter des jeux parce que le Game Pass existe. Quand on veut un jeu, on l'achète. C'est juste pour cette zone grise où ça peut effectivement peut-être pousser les gens à se poser la question. Mais du coup, ça veut dire que je pense qu'ils se posaient déjà la question. Peut-être que ça les pousse un petit peu plus dans le camp de « bon, bah, je vais peut-être l'attendre un peu plus longtemps ». Mais ça, disons que ça ne phagocyte pas complètement les ventes de l'industrie du jeu vidéo, c'est juste que ça change un petit peu, mais comme c'est un plus, à ce moins, il y a aussi un plus des sommes qu'ils touchent quand ils sont inclus dans le Game Pass, ça veut dire qu'il y a aussi une autre source de revenus, c'est pas que dans un sens. Donc moi, ça m'inquiète pas plus que ça.
Mais tu sais, ça, c'est une vraie question de l'industrie que je me pose depuis presque
un an ou deux
ans.
Mais tout le monde se la pose, bien sûr.
Parce que j'ai acheté un PC il y a environ deux ans pour streamer, pour twitcher. Et du coup, j'ai découvert les offres qui existent sur PC, vous savez, les différents stores, les différentes promos. Et en fait, de se rendre compte qu'entre 3 ou 4 abonnements que tu peux avoir, mettons, vous avez le Xbox machin, il y a les différents stores sur lesquels il y a des promos, il y a le PS Store, enfin, disons qu'il y a toujours des...
Non, mais il y a le PS Plus, le PS Now, le Origin Access, le...
Oui, enfin, il y a vraiment... Il y en a plein, oui, bien sûr. Il y a vraiment beaucoup de jeux de qualité que tu peux avoir, par exemple, si tu te connectes le bon mois, t'as Bloodborne gratuit, qui est quand même un des jeux de cette décennie. Du coup, je me demande...
Il y a des jeux gratuits sur l'Epic Game Store, enfin, il y en a de partout, c'est
ouais. Ah, le Epic Game Store, moi j'ai découvert ça, genre à chaque fois. Alors j'ai jamais le temps d'y jouer, mais je les prends. Et je suis en train de me dire à quel moment il y a un moment où les gens vont arrêter d'acheter des jeux vidéo parce qu'ils se disent, ils vont se dire, bah écoute, je suis abonné à Twitch et Twitch il m'enfile aussi. Donc du coup, à quel moment les gens vont arrêter d'acheter des jeux vidéo pour jouer à ceux qu'ils ont déjà? Et tu peux dire que entre 3 abonnements, tu dois avoir 25 jeux faciles par mois.
Mais c'est déjà le cas. Ça, les gens disent ça comme si c'était nouveau. On n'a déjà plus le temps de jouer à tous les jeux auxquels on a accès, qu'on les achète ou pas, depuis des années. Ce n'est pas une question de est-ce qu'on a trop de jeux, c'est une question de quel jeu on veut. Et il y a des jeux qu'on veut au moment où ils sortent. Et ça sera toujours le cas. On va toujours au ciné. Il y a des gens qui disent « Ah, le ciné, ça y est, c'est terminé, machin, rien du tout ». Le ciné, en tout cas en France, ça marche toujours très très bien.
C'est une expérience très différente. Le jeu vidéo, ça reste quand même un truc.
Ok, on a exactement le même truc. Mais le fait de... t'as raison, t'as tout à fait raison, Daniel. Mais le fait d'y jouer quand il sort, il y a plein de gens qui veulent... Il n'y a qu'à voir comment les gens ont réagi quand Cyberpunk a été repoussé, mais pas que lui. Enfin, il y a plein de jeux, tu as envie d'y jouer quand il sort. Et il y a évidemment des gens qui vont encore plus se poser des questions. Et moi, il y a quelques années de ça, quand c'était pas mon boulot, quand j'étais étudiant, quand j'avais un petit peu moins d'argent, évidemment que je me posais la question. Et j'allais même peut-être me tourner vers certaines pratiques illégales pour obtenir certains jeux quand j'étais très jeune. Donc, ces problèmes-là ont toujours existé. Mais là, la différence, c'est que tous ces autres moyens d'obtenir des jeux, faut pas se leurrer, faut se demander à qui profite le crime en fait. Il y a de l'argent quand même là-dedans et l'argent arrive jusqu'aux développeurs et jusqu'aux éditeurs. C'est pas que quand il est magiquement disponible sur le Game Pass ou le PlayStation Plus ou je sais pas quoi, il y a pas d'argent pour cette transaction. Ou même s'il y a pas autant d'argent, il y a un effet de remise sur le devant de la scène qui fait que les gens vont s'y réintéresser et puis des ventes vont revenir. Et ça, on pourrait se poser la question et se dire, est-ce vraiment le cas ? Mais l'expérience, qui est encore jeune, donc ça pourra changer, mais l'expérience nous montre que oui, c'est vraiment le cas. Y a des jeux qui, quand ils reviennent sur le devant de la scène par ce biais, continuent à se revendre.
Mais tu vois, à titre d'exemple, j'ai fait Jedi Fallen Order pendant mes vacances de Noël, et je n'ai pas acheté le jeu, j'ai pris un mois d'abonnement à Origin, là, je ne sais plus, à Origin Access, et du coup, j'ai payé, je ne sais plus, j'en ai eu pour une dizaine d'euros. Forcément, ça fait moins d'argent dans les caisses de...
Bien sûr, mais ils se disent, leur calcul, et peut-être que c'est un mauvais calcul, mais ils se disent il y aura plus de gens qui vont rester abonnés, parce que si on a suffisamment de bons jeux, c'est le modèle Netflix. Netflix, tu peux t'abonner un mois, voir tout ce qui t'intéresse et te désabonner. Et bien sûr qu'il y a plein de gens qui font ça. Mais dans l'ensemble, j'ai pas l'impression que Netflix soit une société assoiffée qui fait pas d'argent. Donc, toutes ces préoccupations, je les comprends et elles sont légitimes. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas légitimes. Mais j'aimerais bien qu'on sorte un tout petit peu de nos terreurs irrationnelles qui sont basées sur rien d'autre que des impressions, étant donné qu'on a de l'autre côté de nombreux témoignages et pratiques qui semblent indiquer que les développeurs s'y retrouvent. Le jour où il y a des développeurs qui viendront nous dire « nous on est asphyxiés, on n'y arrive plus », évidemment il y a des petits... Mais tout ce qu'on voit depuis des années, c'est qu'on a une... comment dire, de plus en plus de jeux, de plus en plus de développeurs et énormément de développeurs qui s'y retrouvent. Et pas que des gros. C'est pas que les Activision et les EA et les Ubisoft qui s'y retrouvent. On a des tonnes de petits développeurs, de développeurs indés qui sont des histoires à succès phénoménales par tous les biais qu'on a et qui font rentrer de l'argent par différents biais qui existent comme ça. Alors oui, peut-être qu'à terme, ce type d'abonnement et de pratiques vont changer les comportements à tel point que ça deviendra problématique. Et à ce moment, peut-être qu'on pourra en reparler. Mais aujourd'hui, le fait de se poser la question, je peux le comprendre, mais il n'y a vraiment rien qui indique concrètement que ces peurs se concrétisent. Et on commence à avoir, avec toutes ces pratiques, un certain nombre d'années, peut-être pas avec le Game Pass, mais avec les PlayStation Plus et les Xbox Gold, etc., on commence à avoir assez de recul pour discerner des tendances. Et aucune, je crois, ne semble indiquer que les développeurs sont mécontents de ces systèmes. Donc, excusez-moi, je pars dans des grandes... des grands discours, mais...
On pardon, t'aime quand même, tu sais.
Est-ce que je vous convainc un petit peu ou est-ce que vous dites non, mais Patrick il part dans ses délires et,
Et moi je pense que l'industrie va toujours nous surprendre et, et tu sais quoi, personne ne pensait voir Nintendo tel niveau il y a 4 ans et voilà où ils sont en faisant parfois en ressortant la moitié de leur catalogue. Écoute, je pense qu'il y a toujours des surprises. Et moi, je suis curieux de ce que va donner, même ne serait-ce que la fin de la génération PS4, Xbox, parce que c'est le moment où les éditeurs maîtrisent le mieux les consoles, tu vois. Je suis pas le mec qui s'enthousiasme à fond sur les sorties de consoles, parce que je pense que c'est vraiment des moments de marketing, mais c'est pas vraiment des moments de créativité. Donc voilà, je suis curieux de voir ce que vont donner les 3 prochaines années.
Ouais, l'industrie est toujours en changement, en chamboulement, ça c'est sûr. Et justement, tu parlais de Nintendo. Ils ont fait leur bilan financier du trimestre et de cette partie de l'année, donc des 3 premiers trimestres de l'année, l'année fiscale 2019, donc qui se termine en mars 2020 au
donc
Japon.
Nintendo va mourir.
Voilà, c'est un petit peu ça. Je me base sur le magnifique tweet, le thread Twitter d'Oscar Lemaire, qui est un trésor de la communauté gaming francophone, et vraiment les résultats sont assez, même pour quelqu'un qui croit à la bonne étoile de Nintendo, il faut avouer que là on est quand même dans une réussite qui est surprenante. Ils ont déjà écoulé plus de 20 millions de Switch cette année, donc comprenez bien, quand je dis cette année, c'est l'année fiscale 2019. Donc, ils ont déjà écoulé plus de 20 millions de consoles cette année. C'est l'une des seules consoles à dépasser ce chiffre en une année civile depuis la DS et la Wii. Donc, une réussite à ce niveau éclatante. Et Nintendo a déjà fait mieux à ce stade en vente que l'année dernière complète, et alors qu'il reste encore 3 mois. Ils ont vendu plus de Switch qu'il ne s'est vendu de Super Nintendo, ce qui est quand même impressionnant. Un petit peu, déjà, Super Nintendo pendant l'ensemble de sa vie. Bon, ce n'est pas la meilleure console encore de l'histoire, mais ils sont vraiment bien partis. Ils sont au-delà, je crois, de la PlayStation 4.
Et PS4, je crois.
Ouais, c'est ça. Toujours
le seul truc qu'ils n'arriveront pas à rattraper, c'est la Wii.
C'est ça, voilà. Ça va être compliqué. 16 millions de Pokémon Sword and Shield, malgré les problèmes de Dexit, de machin. C'est le meilleur démarrage de l'histoire pour un jeu Pokémon. Astral Chain, qui a vendu 1 million. Grosse surprise. Ils ne vendent pas souvent 1 million du côté de chez Platinum, quand ils ne sont pas en partenariat. Quoi d'autre ? Luigi's Mansion, ça va très bien. Ring Fit, 2,17 millions sur Ring Fit, alors que c'était petit truc qui nous a fait rigoler.
En rupture absolue, en rupture en France, mais aussi en rupture au Japon, où il faut faire il faut participer à une loterie si tu veux être sûr de l'avoir. Sinon, il n'y en aura pas avant mars, tu vois. Donc, ils mettent en jeu les Ring Fit Adventure.
16 millions, là on est sur les ventes totales toujours, 16 millions pour Zelda Breath of the Wild. 16 millions, rendez-vous compte. Les meilleurs jeux Zelda, ils atteignent généralement 8 millions, plus ou moins, et généralement on est plutôt à 4 millions. 16 millions pour Zelda, invraisemblable. Mario 4 8 Deluxe, 4 millions d'exemplaires. Bon là encore, c'est le fait de ressortir les ratés, enfin les jeux qui ne se sont pas vendus sur Wii U, parce que les Wii U ne se sont pas vendus.
Se sont pas vendus.
Je répète, comme à chaque fois, mon mantra, ma prière que Mario 3D World arrive sur, sur Switch pour que je puisse le refaire. Je l'ai vraiment aimé. Et je pense que là, c'est une question de moi, parce que à chaque fois qu'ils sortent un truc sur Switch, ça, c'est une presse à billets. Et voilà, il y a d'autres chiffres, peut-être que vous pouvez mentionner certains d'entre eux, mais dans l'ensemble, enfin, réussite éclatante de Nintendo cette année encore, quoi.
J'étais assez étonnée par ce qui concerne Pokémon, meilleur lancement historique. Je m'y serais jamais attendu, quoi. Il a fallu que je le lise pour l'apprendre déjà, mais ça me semble assez invraisemblable, quoi.
Ouais, c'est surprenant, hein, mais c'est effectivement ce qui est encore plus. Comment dire, frappant pour moi, c'est à quel point, encore une fois, dans notre petit microcosme de gamer, on entend parler des frustrations des joueurs les plus vocaux et que en fait, ça se traduit jamais dans la réalité.
Le boycott de Pokémon, il a vachement bien marché. Hein.
Ouais, exactement, c'est ça.
Bravo les mecs. Hein.
Et c'était le cas pour les frustrations sur l'Epic Game Store qui est lui aussi une réussite éclatante. Enfin, il faut vraiment encore plus qu'avant, et on a eu preuve sur preuve que les gamers énervés, ils font beaucoup de bruit, mais c'est pas surprenant que, enfin, je veux dire, on peut.
C'est la minorité
doute,
visible, quoi.
Voilà, exactement. Et si les sociétés finissent par les ignorer, c'est pas si étonnant que ça, parce que ils représentent pas le public au sens large.
Je pense qu'il faut toujours garder, pour eux, en tout cas, il faut garder. Une oreille vers
bien
les gens
sûr.
Qui se plaignent parce que tu vois quand il y a les gens ils disent oh là là un personnage de plus de Fire Emblem dans Smash Bros ça suffit peut-être qu'il faudrait les écouter maintenant c'est bon il y a 8 persos de Fire Emblem c'est bon c'est pour ça qu'il y a eu un mode 8 joueurs dans Smash Bros mais sinon les appels à boycott sont insensés enfin tout ça c'est enfin de toute manière c'est comme les pétitions sur internet le jour où ça marchera un jour faudra
ça changera les choses
on allumera un cierge quoi mais quand tu vois tout d'un coup que des trucs comme que Link's Awakening il fait il a fait 4 millions je sais pas combien il a
Link's Awakening c'est 4 millions Link's Awakening c'est ça
que surtout moi ce qui me paraît important cette année c'est Fire Emblem Three Houses qui tu vois tu te disais le sortir au milieu de l'été, personne n'en a rien à foutre et tout ça. Et en fait, c'est le gros carton, c'est le jeu de l'été de tous les gens qui y ont joué, moi inclus. Non, vraiment, c'est vraiment, ils jouent la contre-programmation à fond et ça fonctionne, quoi. Et regarde, même les jeux qui ont marqué leur époque sur Wii, par exemple, je pense à Xenoblade. Bah, Xenoblade, quand il va ressortir, ça va être un énorme carton parce que les gens vont répondre présent. Il y a juste, je trouve que Tokyo Mirage Session, il se fait un peu dérouiller au Japon, j'ai vu, en termes de vente.
On n'est plus dans les gros porte-étendards non plus.
On n'est pas dans les gros porte-étendards, mais je pensais qu'il ferait mieux. Mais après, tu sais quoi, t'es toujours surpris parce que, tu vois, Astral Chain, j'aurais jamais pensé qu'il fasse le million Worldwide, et pourtant, il y est.
Ouais.
Ce qui est ouf, c'est quand tu vois d'où ils sont partis avec la Wii U et à quel point ils ont réussi à rebondir, c'est admirable, quoi.
Ça, j'avoue que moi, j'étais le premier déçu des performances de la Wii U, enfin, que je comprenais très bien parce que la machine n'était pas extraordinaire, et sceptique sur la Switch au moment de l'annonce, et je suis très content de... Je vais vous dire, il y a
ça,
deux...
c'est Iwata.
Iwata
avait tout prévu, et il a prévu genre sur 4-5 ans. Et là, ce qui va être intéressant, c'est la 4e et la 5e année. C'est le moment où les plans d'Iwata, ce qui se dit, hein, c'est ce que Iwata avait prévu pour des années à l'avance. Et maintenant, ils vont arriver au moment où ils sont leaders, ils ont le marché en poche. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais quand t'es leader ? Voilà, c'est ça l'enjeu de Nintendo maintenant.
Ouais, enfin bon, leader, je sais pas si on peut dire ça quand même, parce que...
Clairement, c'est clairement les trendmakers en matière de jeux vidéo. Je veux dire, bien sûr, tu vas me dire The Last of Us 2 et tout ça, mais Nintendo, quand même, c'est ceux qui ont la Vista en ce moment.
C'est ceux qui sont le plus visibles, c'est ceux qui ont la console la plus récente. Tu vois, la nouvelle console la plus récente. Je veux pas diminuer les mérites de Nintendo, clairement. Enfin, on vient de chanter leur louange pendant une dizaine de minutes, mais dire ils sont leaders, disons c'est ceux qui font les choses les plus éclatantes et ils transforment tout en or, tout ce qui touche en or, mais on a de l'autre côté, même si leur chiffre d'affaires jeux vidéo baisse du côté de Microsoft, on parle de trend, bah leur Game Pass c'est quand même un truc qui, on vient d'en discuter, est en train de chambouler l'industrie. La console avec la plus grande base installée, bah, c'est quand même la PlayStation 4 aujourd'hui, et comme tu le disais, bah, les nouvelles consoles c'est très bien au début, c'est le signal, mais c'est un signal qui se concrétise au bout de 1 ou 2 ans. Donc la PlayStation 4, elle va continuer à compter énormément sur les années qui viennent. Leader, je ne sais pas si on peut effectivement dire ça de manière définitive. Énorme succès, ça c'est certain, mais enfin bon, c'est sûr que ça va être hyper intéressant de voir ce qu'ils vont en faire de leur succès dans les années à venir. Moi, ce que je note aussi, c'est que de la même manière que quand la dernière génération, donc PlayStation 4 et Xbox One, est arrivée, il y a plein de journalistes tech qui... Il faut se méfier des journalistes tech parce qu'ils pensent qu'ils connaissent l'industrie du jeu vidéo, mais en fait, ils la voient par le prisme de l'industrie qu'ils connaissent, qui est une industrie cousine, qui est celle de la tech. Et il y en avait plein qui disaient « Ah, mais les consoles, c'est fini, tout le monde est sur les apps maintenant, tout passe par les apps, on n'a plus besoin de consoles. » Et évidemment, enfin, les gens qui connaissent le jeu vidéo se doutaient bien que ce n'était pas le cas. Et l'autre truc qu'ils disaient, c'était « On n'a pas besoin de machines portables, Nintendo devrait devenir un éditeur et sortir ses jeux sur toutes les machines des autres et ils iraient beaucoup mieux. » Et bien sûr, ceux qui connaissent l'industrie se disaient que ce n'était pas vraiment le cas et espéraient le retour de Nintendo et le succès de Nintendo parce qu'ils ont un truc différent et on a besoin... Il y a de la place pour une machine dédiée, même portable. Et bien là, ils l'ont effectivement prouvé une fois de plus. Mais donc bref, tout ça pour vous dire, quand les journalistes exclusivement tech font des prédictions et des grandes déclarations sur le jeu vidéo, je crois qu'il faut s'en méfier un peu. Bref. Pardon ?
Tu as tout dit.
Bon, j'essaye.
On espère juste que JK se sentira pas visé par ce que tu as
dit. Ah bah JK est un journaliste jeux vidéo, en plus de journaliste
mais
tech.
Il fait de la tech aussi. Ouais, voilà.
Ah mais moi aussi je fais de la tech.
Est-ce qu'on peut embrasser JK à chaque fois que j'entends sa voix? Je suis vraiment...
Tu es ému, émoustillé?
Non, mais c'est pas émoustillé, c'est genre ça m'apporte, ça m'apporte une espèce de satisfaction. Vraiment, j'adore sa voix. C'est un mec, j'adore ce mec, voilà. Bon, donc écoute, j'embrasse JK. Je sais pas s'il m'écoutera, mais JK, je t'aime.
Écoute, je lui dirai au prochain épisode, il est là tous les mois, donc je lui ferai passer le message. Moi, je l'aime beaucoup aussi, notre petit JK. Hop là, j'interromps un instant l'émission pour vous rappeler qu'on est financé par Patreon. Patreon, c'est quoi ? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un système qui permet de soutenir volontairement, optionnellement, si vous le souhaitez, si vous appréciez, de soutenir les créateurs que vous appréciez. Par exemple, le rendez-vous jeu. Et vous allez sur patreon.com/rdvjeu, vous choisissez $1, $2 par épisode, vous décidez quand, combien d'épisodes vous soutenez par semaine, par mois, pardon, vous décidez quand vous vous arrêtez, vous choisissez absolument tout ce que vous voulez et vous permettez de cette manière à l'émission d'exister. Et en plus de ça, vous avez des bonus bien sympathiques comme l'émission sans cette petite promo, sans pub. Vous avez des contenus exclusifs, vous avez tout un tas de choses, mais surtout, vous avez le plaisir de savoir que vous contribuez à l'émission, au fait qu'elle puisse continuer, cette émission qui, j'espère, vous accompagne depuis un petit peu plus de 5 ans maintenant, que vous avez régulièrement et que vous appréciez. J'espère en tout cas, si c'est le cas, patreon.com/rdvjeu et le lien est dans les notes de l'émission. Gros bisous à tous.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bon, il est temps, parlons des jeux auxquels nous avons joué. Je vais te donner la parole tout de suite, Daniel, pour le cas où tu dois filer, parce que je sais que tu avais peut-être un petit peu moins de temps que nous.
Alors, c'est pas tant moi qui dois filer, c'est si tu entends des cris et des pleurs, voilà, faut que j'intervienne.
Très bien. J'espère que tu auras le temps de nous parler. Alors qu'on l'aura compris, pour ceux qui te connaissaient pas, tu es plutôt tourné vers le Japon. Ce qui veut dire que du coup, je suis hyper heureux parce que tu peux me parler de deux jeux dont j'aimerais vraiment savoir ce qu'ils valent. Dragon Ball Z Kakarot, le jeu de rôle sur Dragon Ball qui retrace l'histoire de Dragon Ball. Je sais pas si c'est juste Z ou Dragon Ball aussi. Et Yakuza 7, qui marque un tournant dans la série, on va dire pas niche, mais série culte, qui pourrait, à sa sortie en Occident, la transformer en succès de la même manière que, par exemple, on pense à Monster Hunter est sorti de son statut de culte pour être un vrai succès retentissant il y a un ou deux ans. Donc Dragon Ball Z Kakarot et Yakuza 7, tu peux commencer par celui que tu veux.
Bon, écoute, on va parler de Kakarot quand même. Alors moi j'ai du mal à dire Kakarot, pour moi ça a toujours Kakaroto. Été Kakaroto. Moi, toujours été Kakaroto, à savoir la voix digite que t'entends dans Dragon Ball Z Butoden 2 quand tu vois les points voler vers la tour Karine. Alors il faut être spécifique. Alors je suis éberlué par le fait que ce jeu me prend un temps fou en fait. Il prend un temps fou à faire des petites conneries du genre tout d'un coup il faut que tu ramasses des pommes quand t'es Piccolo, il faut que tu ramasses des pommes pour Son Gohan, et donc ça devient une mini mission qui dure 10 minutes. C'est assez bizarre. C'est un faux open world dans
lequel c'est en bien ou pas en bien là, parce que déjà tu dis ça me prend un temps fou, on sait pas si c'est une bonne chose ou si ça te frustre.
Ah, tu veux vraiment que je te commence dise par est-ce que c'est bien ou pas bien? Alors,
je te laisse faire. Vas-y, explique ce que c'est.
Je pense que ça aurait été mon jeu de l'année sans aucune forme de doute si c'était sorti en 94 ou même 93. Tu vois, il y a tous les genres de choses qui sont très très relous en termes de mécanique de gameplay qui m'auraient posé aucun problème vu qu'à l'époque j'achetais un jeu tous les 4 ans ou un jeu tous les 4 mois ou un jeu tous les 5 mois. Donc les jeux, on les squattait à fond. Et là, en l'occurrence, on était trop heureux de retrouver l'univers de nos personnages et l'univers. Tous ces jeux sont basés là-dessus. C'est basé sur le fait que, est-ce que tu as un plaisir presque proche de l'endomorphine à voir ton personnage sur ton écran de jeu vidéo, comme tu l'aimais à le regarder quand tu regardais au Club Dorothée.
Ouais, parce que là, on l'a pas précisé, mais c'est un jeu de rôle qui reprend exactement l'histoire, même pas du manga, mais du dessin animé, du début à la fin. Et donc,
il reprend pile à peu près au moment où Son Goku va chez Tortue Géniale avec Son Gohan pour le présenter, arrive Raditz, et ensuite,
c'est le début de Dragon Ball Z, quoi.
Voilà, c'est tout le début de Dragon Ball Z. Il y a la plupart des musiques, quelques musiques de la série originale, et ça fait vraiment plaisir parce que on sait que c'est toujours un vrai problème d'avoir les musiques originales, et tu sais que c'est vraiment la jazz rock, donc la SACEM japonaise, c'est très compliqué d'avoir les droits au Japon.
Chanter Chara, Hey Chara, Chara.
Et le truc, c'est que il y a beaucoup de choses qui sont faites pour te faire te sentir bien, c'est-à-dire il y a l'acting, les personnages, tout est là. Le seul truc, c'est que les mécaniques de jeu sont assez désuètes. Le combat en lui-même est pas mal, en fait, parce que il respecte quelque chose qui est quand même de l'ordre du shonen, c'est-à-dire que le combat doit être complètement inégal. À chaque fois que tu te bats dans Dragon Ball, Son Goku se bat contre quelqu'un qui est potentiellement plus fort que lui. Il se bat contre Raditz est plus fort que lui. Il se bat contre Vegeta, contre tous les autres, et c'est toujours quelqu'un qui est plus fort que lui, et donc il y a un espèce de différentiel d'énergie et de level, et donc il faut que tu compenses ça par tes capacités techniques. Donc le jeu se rapporte un peu il me fait penser à un jeu qui était sorti sur Saturn et PlayStation qui s'appelait Idai Naru Dragon Ball Densetsu, qui est lui-même une adaptation d'un jeu NEC. Et en fait, tu choisis pas... tu choisis pas ta position à l'écran, tu choisis ta position par rapport à l'ennemi. C'est-à-dire, tu vas vers l'ennemi si tu choisis de frapper.
C'est un peu comme les... C'est pas les Butoden, mais les Dragon Ball en 3D, justement.
Budokai, Sparking. Et
Budokai, ouais, c'est ça.
Voilà. C'est un peu ce système-là, sauf que je trouve que c'est un chouïa plus technique parce que je me suis fait marave très longtemps par Raditz. Et en fait, Raditz, c'est un peu le combat tutoriel. Une fois que tu l'as passé, ça va beaucoup mieux. Le seul truc, c'est qu'il y a aussi plein d'autres conneries. Par exemple, bah, tu voles et puis tout d'un coup, il y a les robots du ruban rouge qui sont là. Et qui te tape quoi. Enfin, ils sont là pour te faire passer des levels. Donc, tu peux farmer en fait dans Dragon Ball en tapant des robots du ruban rouge. Et c'est long et c'est pas très intéressant. Et puis, les techniques que tu dois débloquer sur un large panel de techniques, si t'imagines, il y a toutes les techniques de Son Goku jusqu'à la saga debout. Donc, tu vois, il y a beaucoup, beaucoup de techniques quand même sur le grid de Son Goku. Et ben, tu les débloques en récupérant des billes qui flottent dans les airs. Donc, c'est pas très intéressant. Ouais, voilà. Donc, c'est beaucoup de farming. Et alors, il y a plein de manières d'esquiver ce farming, mais il y a beaucoup de farming inutile. C'est pour ça que je te dis que ça prend un temps fou. Alors que normalement, si tu réfléchis, Dragon Ball, c'est un boss fight. Moi, personnellement, je sais qu'il y a plein de gens qui adorent Dragon Ball FighterZ. Moi, j'ai un souci. Dragon Ball FighterZ ne m'intéresse pas beaucoup. Le mode story m'est tombé des mains. En fait, ce qui m'intéresse, c'est de jouer contre des gens. Mais bon, je n'ai pas l'occasion souvent de jouer contre des gens. Et à la rigueur, un RPG, une mécanique de RPG solo m'intéresserait plus en tant que gamer. Je veux dire, même si Dragon Ball FighterZ est techniquement vachement plus beau que ça, quoi. Le truc, c'est que c'est en mécanique.
J'ai l'impression,
de RPG, c'est un peu
en
désuet.
T'entendant que le jeu tient ses qualités de ce qu'il tire directement de l'intérêt ou de l'amour de Dragon Ball, mais que tout ce qui est jeu autour est pas hyper convaincant, quoi.
Non, c'est le jeu autour et la technique est assez dégueulasse. Je me souviens plus qui me disait que le cel shading maintenant c'est le parent pauvre de la 3D, c'est-à-dire c'est le truc qu'on fait pour masquer les défauts. Et là, putain, tu vois la cape de Piccolo qui est au-dessus du sol et qui dont les polygones ne rentrent pas en contact avec le sol et tout. C'est pas très beau en fait. Et il y a un truc qui je trouve ironique, c'est que la team qui est responsable de jeu, c'était ceux qui devaient travailler sur FF7 Remake, puisque c'est CyberConnect et CyberConnect devait développer FF7 Remake avant que Square Enix recentre le développement en interne. Donc il y a un peu, je me demande comment s'est passé le développement de ce jeu. Est-ce que ça a été fait à la va-vite? Le truc, c'est que je trouve ça beaucoup mieux que beaucoup, beaucoup de pseudo-RPG Dragon Ball, parce qu'il y a eu les trucs horribles sur GBA. Enfin, c'est des trucs développés par des Américains qui sont vraiment à vomir par terre, qui sont vraiment dégueulasses. Il y a eu beaucoup de mauvais jeux Dragon Ball au cours de l'histoire. Il y a eu les RPG. En fait, je trouve que la mécanique de ce jeu, en termes de plaisir de jeu, ça se rapporte du premier RPG Dragon Ball Z qui est sorti sur Super Famicom. Il s'appelle Super Saiyajin Densetsu, et c'était un jeu de cartes. Et c'était c'était un jeu de cartes. Et tu utilisais des cartes, donc il faut venir avec un bon deck. Tu utilisais ta carte 7 étoiles, 7 boules à 7 cristal pour mieux donner des coups pendant le combat contre Freezer et tout ça. Et c'était pas mal. Et pour moi, ça avait été un de mes JRPG de ma life, parce qu'il est sorti pile au moment où je regardais la série, et qu'à la fin, si tu réussissais ton truc, et ben tu te battais contre le boss caché qui était Vegeta Super Saiyan. Pour moi, c'était le bout du monde, et c'était peut-être un de mes meilleurs souvenirs de ma life en termes de jeux vidéo, alors que, objectivement, le jeu est un peu dégueulasse, et les musiques sont imbitables. Alors, je pense que ça peut potentiellement, pour un gars qui regarde encore Dragon Ball aujourd'hui, je sais pas si Dragon Ball est diffusé, est-ce que qui sont fans de Dragon Ball aujourd'hui, c'est pas plutôt les papas qui essayent de mettre leurs enfants à ça, et ça nous en dit long sur la parentalité chez Son Goku quand même. Mais je me demande si c'est pas genre 20 ans trop tard, mais en tout cas, s'il était sorti il y a 20 ans, je pense que ça aurait été mon jeu de l'année.
Ouais, mais là j'ai l'impression que tu prends quand même du plaisir.
Ouais. Alors si j'avais plein de temps, je te jure que je volerais pendant des heures et des heures à ramasser des billes vertes, des billes rouges, des billes bleues.
D'accord.
Rien à foutre de ce système. Ce système est complètement nul, et ça me fait penser même à presque à Shenmue, parce que dans Shenmue 3, ils ont rajouté des systèmes complètement obsolètes, Et je pense que ça, c'est un peu leur système obsolète. Ils sont obligés de rajouter des petits systèmes qui prennent du temps. Et ça, c'est vraiment genre. Ça me mystifie tellement c'est une mauvaise idée de gameplay.
C'est, on peut se demander si c'est pas les habitudes japonaises, les mauvaises habitudes japonaises qui sont souvent qui poussent souvent à rajouter du grind parce que c'est culturellement dans les joueurs japonais semblent et asiatiques en général semblent bien aimer ça, mais du coup passons à l'autre jeu dont je voulais que tu nous parles un peu, Yakuza 7. Est-ce que la transition, parce que là on passe d'un combat à temps réel à un combat semi tour par tour et puis un nouveau personnage, enfin c'est un nouveau chapitre pour Yakuza,
presque nouveau personnage, Ichiban, non, il était dans Ryuga Gotoku Online, en fait.
Ah, d'accord, ok, voilà. Je ne m'en rendais pas compte, ok.
Et écoute, c'est, là, on est tout de suite dans un bon jeu. Et c'est ça, j'essaye de trouver un équivalent dans l'histoire du jeu vidéo, parce qu'il doit y en avoir, et je n'ai pas la tête assez fraîche pour ça. Mais en gros, dans Yakuza 7, tous les assets existent quelque part. C'est-à-dire, tout a déjà été fait. Les personnages, les combats, les attitudes, enfin tu vois, quand je te parle d'assets, c'est-à-dire que la modélisation est faite, l'univers est là, les missions sont presque les mêmes, les missions débiles sont presque les mêmes, c'est-à-dire tu vas chercher des chats, tout est déjà là.
Tu veux dire que les Yakuza d'origine, enfin les Yakuza précédents.
Le contexte est complètement là, sauf que tous les éléments existent, mais ils ont été utilisés de manière complètement différente, c'est-à-dire au lieu de faire un jeu avec une base de jeu d'action, ils en ont fait un RPG et ça change tout, ça n'a rien à voir, et en même temps, tu es dans un contexte très très bien en fait. C'est comme se fondre dans un canapé que tu connaissais il y a très longtemps. T'étais plus en contact avec ce canapé, et là, tout d'un coup, tu retrouves le canapé que tu aimes, et tout d'un coup, tu te fonds dedans et t'as l'impression d'être bien. Et Yakuza 7 me donne cette impression en fait. C'est génial. C'est vraiment. C'est un vrai coup de cœur. Hein. J'adore ce jeu. J'arrête pas d'y jouer. Les choses qu'il me propose sont passionnantes. C'est le premier Yakuza qui me pousse à faire toutes les mini-quêtes parce que comme ça, tu débloques les furies. Et les furies, elles sont hilarantes. Enfin, t'as des attaques de langoustine, t'as des custos, t'as des furios, t'as tout. L'univers est déjà là. Mais le truc, c'est que tout a été utilisé de manière nawak. Il y a des changements de job. Tu peux changer de job. Donc, ton héros. Il va devenir Yusha parce qu'il est passionné par Dragon Quest. Mais
Yusha, c'est héros.
Il va devenir héros. Mais en vrai, il y a plein de choses, de détails basés sur le monde du RPG qui sont des références. Même les minigames loupés, ils sont presque rigolos. Il y a un jeu de cartes absolument naze, mais il est presque rigolo quoi, parce que j'ai l'impression qu'il est là pour occuper le temps.
Juste pour préciser, certains voudront peut-être y goûter. Il est sorti qu'au Japon. Il arrive en Europe, enfin en Occident, courant de l'année normalement. Donc,
il est sorti début janvier au Japon et je pense honnêtement ça a la gueule d'un jeu qui va sortir en octobre au moment où tous les autres gros jeux sont sortis et qu'il n'y a plus rien à jouer en octobre a priori mais ouais. Non vraiment je pense que ouais, ça va sortir cette année et bon courage pour les traducteurs parce que ça a l'air compliqué hein. Ça a l'air pas évident.
Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu le jeu quand même concrètement, qu'est-ce qu'on fait quand on joue à ce jeu-là, parce que certains connaîtront peut-être pas, ont peut-être pas suivi.
Alors, il y a toujours une mission centrale mais le jeu comment dire?
Bah déjà, c'est un jeu qui est dans l'univers du, pour ceux qui ne savent pas, l'univers de la mafia japonaise, Yakuza, qui est à la base une sorte de... Est-ce qu'on peut parler d'open world dans un espace très réduit, mais on a ce quartier où on va faire un petit peu ce qu'on veut, quoi.
Alors oui, t'es dans un quartier, donc le quartier de Shinjuku. Au début, tu commences à Shinjuku, mais là, maintenant, aujourd'hui, tu vas à... tu te déplaces à Yokohama. Excuse-moi, parce que j'ai des bruits à la maison. J'ai me concentré. Tu es à Yokohama et tu reprends l'histoire, sans spoiler le début, tu reprends l'histoire alors que tu es un clochard, en fait. Tu as été laissé pour mort et donc tu te retrouves clochard à Yokohama et donc tu vas mener une vie de SDF et évidemment c'est Yakuza donc tu vas gagner de l'argent très très vite, ça va changer assez vite, mais du coup tu vas avancer dans ton histoire, mais en même temps en périphérie, et c'est ça qui est ça, c'est toujours la veine Yakuza, c'est que l'histoire centrale est très 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 sérieuse avec des histoires de mafia, des histoires de narcotiques, des histoires de faux monnayeurs et tout ce que tu veux, et en même temps ça va te donner des side stories absolument débiles, mais vraiment de genre débilissimes. Qui sont vraiment très très fun à jouer, qui donnent un peu le côté fou de Yakuza que j'aime bien en fait. Et voilà, c'est comme ça que se déroule le jeu, c'est très très proche de la sensation originale en fait.
D'accord.
Les combats par contre sont au tour par tour, et ça c'est le coup génial, c'est qu'ils sont au tour par tour, mais si tu as des réflexes que tu interviens vite, l'issue de tes coups est différente. C'est-à-dire, si tu frappes assez vite le mec au sol, tu feras plus de dégâts. Ou alors, par exemple, il y a un truc de just guard. Si tu appuies au bon moment, tu peux faire une garde parfaite sur l'attaque qui t'est envoyée. Donc, c'est en tour par tour, mais en semi-temps réel. C'est très particulier, mais je trouve ça très, très dynamique. Et au fur et à mesure, tes potes commencent à se connaître et donc ils commencent à donner des coups à droite à gauche, genre si le mec il passe à côté d'eux, bah ils lui foutent une torgnole en passant, et c'est assez cool parce que les combats vont vite en fait.
D'accord. Bon, ça a l'air d'être effectivement un système original qui est une sorte de tour par tour actif optionnel quoi. J'imagine que quand t'es sur un combat où t'as l'avantage, t'as même pas besoin de t'en soucier, donc ça te fait une petite pause et
Ah oui. Tu peux faire une pause, oui, ça, tu peux faire une pause, mais en même temps, il y a plein de, c'est très dynamique, voilà.
Ouais. Ok, super. Bah écoute, merci bien pour ce détour par le Japon. Et puis puisque t'es là et qu'on parle Japon, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de jeux japonais. Je vais juste mentionner qu'il y a un jeu Captain Tsubasa Olive et Tom qui a été annoncé, qui est même passé en preview. Bon, les previews sont pas tout à fait brillante, ça, il n'a pas l'air de briller, mais il est là. Il y a aussi eu une annonce de Haomaru qui est dans Soul Calibur. Haobaru qui vient dans Soul Calibur pour combattre Mitsurugi, ce qui est marrant parce que tous les deux sont inspirés du samouraï légendaire japonais. Merde, comment il s'appelle celui qui a écrit Gorin no Hon?
Tu parles de Miyamoto Musashi?
Voilà, Musashi, merci.
D'accord.
Et en fait, c'est marrant parce que c'est deux versions de Miyamoto Musashi qui se battent l'une contre l'autre parce qu'ils ont été dans deux versions, dans deux jeux différentes, mais c'est l'inspiration. Enfin bref, c'est marrant. Ça m'a fait marrer, ça fera sourire ceux qui aiment le Japon. Les autres s'en foutent. Donc, pour les autres, on va se retourner vers Maïté, qui, elle, a joué à un jeu... tu dis, c'est ton jeu de la honte, mais en fait, tu l'aimes bien quand même. Pour moi, il y a plein de gens que j'ai entendu parler de Cooksurf Delicious. Pourquoi ton jeu de la honte?
Parce que tu sais, c'est pas très cérébral déjà comme jeu. C'est un jeu de rapidité en fait, hein, puisque en fait c'est un jeu dans lequel tu joues à la première personne un cuisinier qui est derrière ses fourneaux. Et en fait, tu sais, c'est des jeux où tu as les commandes de plats qui arrivent les unes après les autres et tu dois le plus rapidement possible avec une combinaison de touches mettre les bons ingrédients dans la recette et livrer dans les temps et avec les bons ingrédients les bons plats qui t'ont été demandés. Et alors, je dis que c'est un peu mon jeu de la honte, mais tu sais, comme je dis que je fais du Picross et c'est un peu mes jeux de la honte aussi, c'est que c'est pas du grand jeu vidéo, mais n'empêche que c'est vachement addictif. Moi, je passe toujours un très bon moment. En plus, c'est un petit studio qui fait ça qui s'appelle Vertigo Gaming, et puis les devs sont ultra sympas. On discute un peu avec eux sur Twitter. Et voilà, le jeu est hyper polish. Donc, si vous aimez la bouffe, en faire, en manger, c'est un plaisir, ne serait-ce que visuellement. Tu vois, il y a de la bouffe de partout. Tu peux faire des bubble tea, tu peux faire tu peux faire des burgers, tu peux faire tout ce que tu veux. Enfin voilà, c'est assez.
Mais c'est à dire qu'il y a un vrai plaisir j'ai presque envie de dire gustatif.
Complètement.
Ouais.
Ah, j'adore. Et en fait, donc, t'as, par exemple, quand tu dois faire un bubble tea, tu as plein de déclinaisons de bubble tea possibles. Donc, il faut bien que tu mettes les bonnes saveurs et le plus rapidement possible. Tu peux améliorer ta cuisine. Bah, c'est un peu le jeu de la dinette, mais version jeu vidéo, quoi.
Ah, j'adore la dinette, moi. Moi, je suis... J'étais, quand j'étais plus jeune, je regardais plein d'émissions de cuisine. J'adorais ça. Je ne cuisinais pas forcément moi-même, mais j'adorais regarder les émissions de cuisine. Donc peut-être que c'est le même type de plaisir qui est activé par, par ce jeu-là, quoi.
Comme c'est un jeu de rapidité, un peu un jeu de rythme, t'as une sensation de flow qui arrive très vite dans le jeu dès que tu maîtrises un petit peu. Et voilà, c'est, donc c'est le troisième, là, il vient de sortir en accès anticipé hier. Tu peux l'avoir pour genre 10 ou 11 euros, je crois, sur, sur Steam. Et je suis tombée complètement par hasard dedans. C'est un pote qui m'avait offert le tout premier. Donc là, ils en sont au numéro 3. Et franchement, allez-y, parce que en plus, c'est des jeux qui sont bien réalisés. Avec, tu vois que les mecs qui ont fait le jeu l'ont fait avec beaucoup d'amour. C'est très joli, il y a des très bons doublages. Enfin voilà, ça reste un petit jeu très bien fait. Moi, je suis complètement accro. Je connais plein de gens qui sont très accros aussi, et j'espère que après cette émission, j'aurai fait d'autres.
tu me répètes le nom du jeu que je cherche.
Alors, c'est Cook Serve Delicious, et donc là, c'est le numéro 3.
Ok, bah écoute, je vais jeter un coup d'œil. J'adore les jeux de cuisine.
Ah bah tu me diras, voilà. J'espère que ça te plaira.
un premier convaincu, j'espère qu'il y en aura d'autres parmi les auditeurs. Ok, donc je répète le nom encore une fois, Cook, Serve, Delicious, donc cuisiner, servir et délicieux, en anglais pour ceux qui parlent la langue, je déteste ces poncifs, la langue de Shakespeare. Allez, quelques petites news passées rapidement. Je vais faire mode mitraillette et puis après ça, vous pouvez me dire s'il y a des choses qui vous intéressent là-dedans et puis on continue à avancer. Doom Eternal, il y a eu des previews. Bah, écoutez, moi, ça m'a l'air assez sympathique. C'est Doom 2016, mais on steroids, comme on dit. Et moi, j'ai l'impression que c'est pas trop mal. Temtem, le MMO Pokémon, pas fait par Nintendo. Avant les annonces des résultats, certains auraient pu dire des résultats Nintendo, certains auraient pu dire « Ah, mais regardez, Nintendo, il rate des possibilités en ne faisant pas évoluer la formule Pokémon. » Bon, visiblement, ça plaît, donc il n'y a pas de raison de la faire évoluer, mais Temtem, c'est un jeu un petit peu inspiré de Pokémon qui est en mode MMO, sans... texte, sans chat en texte, donc c'est que des emotes, etc. Mais le jeu a l'air vraiment sympa, il est en early access et franchement, si j'avais pas autant de jeux que je dois finir, j'aurais été l'acheter parce que les retours sont super bons et il a l'air très attrayant. Donc si vous êtes fan de Pokémon, allez voir du côté de Temtem, T-E-M-T-E-M. Ninja Theory a fait un petit teasing de leur prochain jeu qui s'appelle Project Mara, qui est même pas forcément un jeu, c'est un truc expérimental, ils ont l'air de se focaliser sur les expériences psychologiques après Senua's Sacrifice, Hellblade. Et là, c'est un jeu qui veut reproduire l'expérience de l'horreur psychologique. Donc, à voir ce que ça donnera. Respawn est en train de faire une communication assez habile pour Apex Legends en présentant un nouveau Legends, un nouveau héros qu'ils ont en fait tué dans la présentation suivante, dans le trailer suivant, et le nouveau personnage en fait c'est l'assassin qui a tué ce premier héros. C'était assez bien foutu, j'ai trouvé ça malin. Overwatch et Call of Duty seront exclusivement sur YouTube pour toute la partie e-sport, donc l'Overwatch League passe de Twitch à YouTube. Alors, au-delà des mécontentements que ça peut provoquer chez certains, il est intéressant de voir que les guerres du streaming continuent à se dérouler avec des gros sous. Rocket League ne sera plus développé sur macOS et Linux parce qu'ils veulent faire évoluer le moteur graphique et c'est un peu compliqué de garder la parité avec ces autres plateformes. Ça ne fait que confirmer le fait que, bah, mine de rien, le Mac et Linux ne sont... je pense à terme, effectivement, ça le confirme, hein, on le savait déjà, mais ne sont pas des alternatives viables pour le jeu vidéo. Et Legends of Runeterra est disponible en bêta ouverte. Donc, si vous voulez essayer le concurrent de Hearthstone de Riot Entertainment, qui vous permet d'acheter toutes les cartes directement sans avoir acheté des loot box, eh ben, vous pouvez tous le faire par vous-même. Voilà pour les petites news que je voulais évoquer. Est-ce qu'il y a des choses qui vous parlent là-dedans, sur lesquelles vous voulez, que vous voulez commenter, ou vous me dites si on avance ?
On peut avancer, je pense.
On peut avancer, d'accord. Même pas un petit mot sur Temtem. Oh, je suis déçu. Moi, c'est si... un petit peu...
J'ai des potes là, qui se le sont achetés, qui s'y sont mis, mais ils m'ont pas assez convaincu. Ils n'ont pas été assez enthousiastes pour me convaincre.
Ah zut, moi je voulais des gens super enthousiastes. Bon, bah, on attendra, il est en early access de toute façon. Des trucs du Japon, là encore, pour faire honneur à Daniel. Phantasy Star Online 2 arrive en bêta sur Xbox One en février.
Un jeu qui existe déjà sur Switch.
Il est disponible en Europe, Phantasy Star ?
Non, il est disponible au Japon et il est entièrement en cloud. C'est-à-dire, tu n'as rien à installer.
C'est en streaming, oui.
C'est en streaming et par contre, je pense que tu ne peux pas y arriver. Ça ne marche pas bien. Depuis la France, à chaque fois que j'ai essayé, j'ai toujours eu un message d'erreur. Ah. Donc, je crois qu'ils ont bien fait le travail pour nous empêcher de jouer.
Bon, du Japon en streaming, c'est un peu compliqué quand même. Ça peut fonctionner bien, mais il y a un jeu Saint Seiya qui arrive sur iOS et Android, les Chevaliers du Zodiac. Bon, c'est pas du Zodiac là, du Zodiac. C'est bon, juste pour mentionner, parce que Chevalier du Zodiac, on est dans notre trip Japon. Et il y a un jeu Monster Hunter Riders, qui est un jeu Monster Hunter, qui arrive sur iOS et Android aussi, de la part de Capcom. Je ne sais pas si c'est des jeux qui valent le détour ou valent le coup d'être essayés, mais Saint Seiya, ça avait l'air d'être un truc quand même très classique mobile, avec des personnages à plusieurs forces à faire évoluer et tout ça, bon. C'est peut-être pas notre tasse de thé. Mais Monster Hunter Riders, je ne sais pas du tout ce que c'est. Il faudra regarder de ce côté-là. Et enfin, dernier sujet que je voulais évoquer, c'est le top des jeux de la décennie aux États-Unis. Parce que, encore une fois, c'est un petit peu l'autre thème en plus du Japon de cet épisode, je crois. L'impression qu'on a dans notre communauté de gamers, de vrais gamers, elle réalise pas ce qu'est la réalité justement du jeu vidéo dans le monde. Bon, là, c'est spécifiquement aux États-Unis, mais je ne sais pas si vous avez regardé les notes, mais dans le top 10 des revenus, alors il n'y a pas dans ce top 10 les revenus en ligne de Nintendo, donc ça pourrait un petit peu changer les choses, mais sur la décennie, je ne suis pas convaincu que ça bouscule non plus tout le top, parce que les ventes physiques sont comptées et les ventes numériques de tous les autres sont comptées. Et donc, dans le top 10, à votre avis, quelle est la série qui domine ?
Alors, j'ai l'air sous les yeux, donc je
ne
vais pas...
Attends, c'est en popularité ou c'est en quoi ?
En revenu.
En revenu
Donc, ce n'est pas juste les ventes, c'est aussi tous les achats in-game
Ouais, tous les revenus qu'ils ont générés.
Je ne sais pas, FF14 ?
Alors, la série, c'est un petit peu un piège, mais quand même, c'est Call of Duty. Aux États-Unis, sur la décennie, c'est Call of Duty. Et là, vous pourriez dire, ouais, bon, OK, y a un ou deux jeux dans le top 10. Non, je vais vous lire le top 10. Grand Theft Auto 5, ok. Ensuite, Call of Duty Black Ops, Call of Duty Black Ops 2, Call of Duty Modern Warfare 3, Call of Duty Black Ops 3, Call of Duty Ghosts, Red Dead Redemption 2, Call of Duty World War 3, Call of Duty Black Ops 4, et en 10, Minecraft. 7 jeux sur 10 qui font les plus gros revenus de l'industrie du jeu vidéo aux États-Unis. 7 jeux sur 10, c'est des Call of Duty. Et si on passe dans le top 20, on rajoute 3 Call of Duty. Donc, tous les Call of Duty qui sont sortis sur la décennie sont dans le top 20 des jeux qui ont généré le plus de revenus. Donc, c'est vraiment la raison pour laquelle j'en parle, et je voulais finir avec ça, c'est que on a une image de ce qu'est l'industrie du jeu vidéo qui est très biaisée, en fait. Et ça, je pense que ça permet de remettre les choses au clair un tout petit peu. Encore une fois, c'est aux États-Unis, ça serait peut-être un petit peu différent en Europe. Je ne suis pas convaincu que ça soit complètement différent non plus. Donc voilà, je voulais finir avec ce chiffre marteau.
Et tu sais quoi, dans l'industrie du cinéma, tu flipperais aussi, hein, parce que...
Ah oui.
Bah, tu veux qu'on fasse un jeu, puisque c'est l'objet du dernier Super Ciné Battle, un podcast pas mal, ok, que je hoste. Mais on va jouer au jeu des devinettes. Quel est le film qui ne soit ni une suite, ni une licence, ni une adaptation, ni un remake, qui n'appartient à aucune franchise, qui est le premier film au box-office mondial de la décennie ?
Avatar ?
Ah bah non, il est sorti dans la décennie
précédente, merde.
Ouais.
Un Pixar peut-être, non?
Ah Disney. Oui, tu brûles.
Un Disney?
Tu brûles, ouais. Non, c'est un Disney, ouais.
D'accord.
La Reine des Neiges, peut-être?
Non. 37e place.
C'est une adaptation.
37e place. Non, mais en plus, il y a une suite, mais bon, on pourrait dire La Reine des Neiges, mais 37e place, c'est Zootopie.
Zootopie?
Ah. Ouais, Zootopie. C'est étonnant.
Ah oh là là!
Et attention, le deuxième film, qui n'est ni une suite, ni un remake, ni un spin-off, ni un reboot, ni une franchise, ni une univers partagé. 45e place. Donc déjà, tu en as 36 avant. Et ensuite, tu retombes encore 10 places plus loin. C'est 45e, Bohemian Rhapsody.
Ah ouais?
Ouais.
Et
54e, là, c'est Pixar, c'est vice-versa. 54e.
Ouais.
Non, mais voilà. Donc, on les a classés dans le Super Ciné Battle.
C'est en box-office États-Unis de la décennie?
C'est en box-office worldwide. Worldwide, oui, parce que Bohemian Rhapsody, c'est vraiment worldwide qu'il a cartonné.
D'accord. Intéressant. Bon, bah écoutez, si vous voulez plus de détails là-dessus, vous pouvez aller écouter Super Ciné Battle, un des nombreux podcasts du Robotics Podcast Universe de notre ami.
Merci, Senpai. J'ai beaucoup appris grâce à toi, Patrick. Patrick m'a coaché, il m'a donné des conseils, il m'a dit prépare bien ton truc.
On s'est vu plusieurs fois il y a de nombreuses années maintenant. Ouais. On s'est pris des petits cafés, des petits rendez-vous en amoureux, tout ça, où on a discuté.
Et j'ai bien écouté, j'ai bien retenu la leçon, et surtout je voulais bien faire les choses, et Patrick il m'a dit surtout prépare-toi avant et tout, fais pas ça à la légère. C'est pour ça que j'ai attendu plus de 2 ans avant de le faire, mais Patrick c'est mon senpai de... Et j'ai encore plein de choses à apprendre. Par exemple, dès le début du podcast, tu remerciais les patriotes, alors que nous, parfois, on est tellement naze, on oublie de le faire de tout l'épisode. On n'est pas des commerciaux, on n'arrive pas, nous.
Ah, mais donc, c'est un truc, effectivement, qui compte, parce que, mine de rien, il y a beaucoup de gens qui n'écoutent pas jusqu'à la fin, tu sais.
Oui, oui.
Le taux de complétion sur les podcasts est quand même important, mais on est à souvent 60, 70, 80%. Et donc, oui, pour que les gens qui veulent entendre leur nom, ça leur fait plaisir, tu vois. Donc,
Tom m'a tout appris.
Si ça peut te rassurer, je sais que chez Gamerside aussi, on a beaucoup de mal à remercier les patrons, parce que je pense qu'on culpabilise toujours un petit peu de prendre un peu d'argent aux gens, alors qu'ils nous en offrent généreusement.
Écoute, c'est pour payer la bière, ça ne peut pas être culpabilisant. c'est forcément positif.
Alors, comment dire?
Bon, ben merci en tout cas à tous les deux d'avoir été là. Dites-moi où on peut vous retrouver. Donc, vous mentionniez les noms des podcasts. Gamerside pour toi, Escarina, et puis Kiss My Geek.
C'est même super Gamerside maintenant. Oui, et toujours Kiss My Geek. Et puis sur Twitter, Escarina _.
Ça marche. Daniel.
Pour ma part, Camille Robotics sur Twitter, donc je m'appelle Daniel Andreev, j'écris parfois ce Game Cult, donc le test de Ryuga Gotoku 7, à savoir Yakuza. Le dernier sera disponible là-bas. Et puis, bien évidemment, vous pouvez me retrouver sur le podcast After Eight. On était en petite pause parce que mon camarade était malade. Une maladie qui fait tousser, mais qui n'a rien à voir avec les virus dont on parle dans l'actualité, fort heureusement. Et il y a Super CD Battle que je présente aussi. Alors, donc, Quix, avec Quix, on fait After Eight. Avec Papa, on fait Super Ciné Battle. On vient de dépasser l'épisode 100. Donc, ça y est, on a dépassé l'épisode 100. Donc, on s'attaque au film de la décennie 2010, puisque c'est pas tous les jours, on s'attaque à une nouvelle décennie. La prochaine décennie, il faudra attendre très très longtemps, donc on est ravis de s'attaquer au film plus ou moins récent. Et puis bien sûr, BD sans modération que je faisais avec ma compagne, mais pour l'instant on est en congé, on va dire que c'est un podcast en congé maternité. Donc sinon vous avez toujours Gaijin Dash dans lequel vous pouvez me retrouver, et différents autres projets, mais voilà, en général j'en parle sur Twitter ou bien sûr dans les différents podcasts que je présente ou que je co-présente.
Eh bien, c'est magnifique. Et le lien vers ton compte Twitter sera dans les notes de l'émission. Comme ça, les gens peuvent aller là-bas pour tout retrouver. Ça sera le cas, évidemment, aussi pour Maïté. Et pour moi, c'est Note Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Et vous pouvez retrouver cette émission sur frenchspin.fr. Et vous pouvez également soutenir l'émission sur patreon.com/rdvjeux. Comme je le disais en début d'émission, vous avez accès à plein de trucs sympathiques, plein de bonus, plein de récompenses. Donc, sur surtout, si vous appréciez l'émission, si vous passez un bon moment en nous écoutant, pensez à aller sur le site. Vous trouverez le lien également dans les notes de l'émission et ça prend allez, 2 minutes pour s'inscrire et pour contribuer. Donc, si vous appréciez l'émission, n'hésitez pas à le faire. On vous fait de gros bisous et on vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Ciao à tous !